Donc, on est dans notre deuxième shiur sur le chapitre 18. Je rappelle rapidement ce qu'on a expliqué dans le premier chapitre. On a expliqué que c'est écrit Mayafimt dans Shir HaShirim, c'est écrit Mayafit ou Manaamt Ahava Beta Anugim. J'explique. La semaine dernière, on a parlé longuement de l'amour. Je reprends ce qu'on a dit. On avait expliqué qu'il y a deux catégories d'amour.
L'envie.
Il y a l'amour qui est lié au plaisir. Il y a l'amour de la recherche. La semaine dernière, on s'est focalisé beaucoup sur le premier amour. L'amour qui est lié au plaisir. On a expliqué longuement. On a dit que quand une personne cherche quelque chose, il y a le moment dans lequel tu cherches la chose, donc tu as une soif pour arriver à la chose. Il y a le moment dans lequel tu as obtenu ce que tu voulais. C'est deux choses, c'est deux sentiments qui n'ont rien à voir. D'accord ? Il y a le moment dans lequel tu cherches la chose, et il y a le plaisir que tu éprouves quand tu as trouvé ce que tu cherchais. Donc on a expliqué que c'est la même chose pour Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose dans notre judaïsme. On a un amour que la Neshama éprouve quand elle veut s'approcher de Dieu. Par exemple, quand on a envie de faire Teshuvah, quand on a envie de s'approcher de Dieu, la Neshama ressent une certaine soif. De la même manière que des fois on a envie de boire, on a une soif physique, et que tant que t'as pas bu, t'es pas tranquille. Une fois que t'as bu, tu fais « Ah !» D'accord ? Et bien de la même manière, la Neshama, elle a une soif. Elle a une soif en elle. Elle veut avancer vers un Kadosh Baruch Hu. Et après, ce qu'on a expliqué la semaine dernière, des fois, à Kadosh Baruch Hu, il nous donne un cadeau. C'est un cadeau qu'il donne à certaines personnes. On arrive au deuxième niveau de l'amour. C'est quoi le deuxième niveau de l'amour ? C'est je sens que ma soif a été assouvie. Je sens que ça y est, j'ai eu ce que je recherchais. En d'autres termes, pour parler en mots clairs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on fait teshuvah, on cherche quelque chose. Mais est-ce qu'après un certain moment, dans notre teshuvah, on a le sentiment qu'on a trouvé ce qu'on cherchait ? Et que maintenant on est bien ? Pas forcément. Qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est un niveau que les tzadikim ont, mais ceux qui ne sont pas tzadikim, c'est pas forcément qu'ils ont ce niveau. D'accord ? Donc c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Est-ce que c'est clair jusqu'ici ?
Oui.
Oui ? Bon, ceux qui étaient la semaine dernière,
c'est moi, c'est bon.
Mais de temps en temps, sans qu'on puisse le prévoir. Ça veut dire que par exemple, une personne fait teshuvah, il peut ressentir un plaisir de ce qu'il fait, d'accord ? Il peut ressentir un grand plaisir de ce qu'il fait, ça peut durer quelques jours, quelques années, et après ça s'arrête, et jusqu'à la fin de sa vie, il éprouve plus de plaisir particulier. Il a toujours cette soif, mais il éprouve plus le plaisir que, comme quelqu'un qui avait soif, tu peux le sentir avant qu'il a bu, après qu'il ait bu, c'est pas la même personne. Il avait très soif, tu vois, après qu'il a bu, il est tranquille. Est-ce qu'on peut dire que, moi j'ai envie d'étudier la Torah, est-ce qu'on peut dire que Yamen Diasouline avant qu'il ait étudié la Torah, Yamen Diasouline après qu'il ait étudié la Torah, c'est une chance qu'on a des fois. Des fois j'ai cette chance qu'après que j'étudie, je me sens mieux. Mais c'est une chance que des fois ça peut passer des mois et des années, sans que tu changes, que ça t'a changé quelque chose. Oui, mais je ne sens pas que ça assouvit une soif que j'avais en moi. Ça, c'est un cadeau que Dieu donne. Des fois, il le donne, des fois, il ne le donne pas. D'accord ? Donc, il ne faut pas être étonné si on ne l'a pas. En d'autres termes, c'est ce qu'on voulait dire la semaine dernière. La conclusion de la semaine dernière. Allez, David, c'est spirituel maintenant.
J'ai oublié ça.
La progression n'est pas la même, c'est normal.
Alors, ce qu'on a expliqué la semaine dernière, on est tous Baal Teshuvah. Et on est tous à chaque jour, chaque instant, on est Baal Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah ? Teshuvah, c'est retourner vers Dieu. Donc tout le monde retourne vers Dieu.
C'est sûr, au début, quand tu parles de traite, tu as l'impression de faire des grands pas.
Il y a des gens qui retournent jamais.
Et puis après, plus tu avances, tu as l'impression d'avancer plus petit, de parler plus petit.
J'ai compris. Mais ce qu'on a expliqué, c'est que des fois, ce qui est une source de grande frustration pour les Baal Teshuvah, et ce qui est juste, on a expliqué qu'une vraie frustration, c'est que quand ils commencent à faire Teshuvah, ils sentent que ça assouvit une soif. C'est-à-dire, ils sentent que quand ils étudient, ça remplit quelque chose, ça répond à une demande. Et après, quand ils avancent dans la Torah, quand ils commencent à mettre les tefillin tous les jours, à faire Shabbat, etc., ils ressentent plus ça. Ça vient plus. Donc ils se posent la question, pourquoi j'ai plus que j'avais avant ? Est-ce que j'ai raté quelque chose ? Il répond, il te dit, tu n'as rien raté du tout. C'est un cadeau que Dieu te donne au début, et que Dieu donne au tzadikim, mais qu'en général, on n'a pas ce cadeau-là. C'est seulement quand on arrivera en haut que là, on aura le plaisir, le temps de s'arrêter pour prendre du plaisir de ce qu'on a fait. Mais là, maintenant, ici-bas, prendre du plaisir de ce qu'on a fait, c'est pas forcément qu'on l'aura. Peut-être oui, peut-être pas. Là maintenant, aujourd'hui, on va s'arrêter plus sur le niveau d'amour qui est à notre portée. C'est le fait d'avoir la soif vers la chose. Rappelez-vous, il y a toujours ces deux choses-là. D'accord ? Je veux pas qu'on perde le fil. Pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, faut pas qu'on perde le fil. Il y a deux choses. Première chose, c'est l'amour de la recherche. Deuxième chose, c'est l'amour quand j'ai trouvé. D'accord ? Toute la vie, c'est comme ça. Je veux quelque chose. Il y a le moment dans lequel je le veux, je suis en train de le rechercher. Donc, si je le recherche, ça veut dire que j'aime ce produit. Et il y a le moment dans lequel j'ai obtenu le produit. C'est deux phases qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'ailleurs, le sentiment de la personne n'est pas le même. D'accord ? Il y a avant que j'ai le produit, après que j'ai le produit. Avant l'envie, après que j'ai eu l'envie. Donc, le plaisir qu'on a après avoir l'envie, ça, c'est écrit que c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Et c'est peut-être qu'il y a des gens qui ne l'auront jamais. C'est comme ça. Par contre, apprendre à avoir la soif de l'étude de la Torah, de faire les mitzvot, ça c'est quelque chose qu'on va étudier, qu'on peut arriver à ça. Ça veut dire, avoir le sentiment de qu'on a répondu, qu'on a épanché une soif, ça, peut-être qu'on l'aura pas. Ça c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu donne, des fois il nous donne, des fois il donne pas. C'est-à-dire se sentir heureux dans son judaïsme, se sentir épanoui. Se sentir épanoui.
Non, mais d'accord. On peut savoir satisfaire de la soif.
Alors justement, est-ce que
si on cherche quelque chose,
tu as des gens qui font la Torah et les mitzvot, ça peut nous arriver à tous, sans pour autant que tu te sens épanoui. C'est quoi quelqu'un qui est épanoui? C'est quelqu'un qui avait quelque, qui cherchait quelque chose et qui a obtenu ce qu'il voulait. Donc il est après la soif. Tu as des gens qui font Torah et mitzvot et qui ne sont pas épanouis.
Il apprécie ce qu'il a obtenu.
Alors, c'est ce qu'il te dit. L'épanouissement, c'est un cadeau que Dieu nous donne de temps en temps, mais c'est pas automatique. C'est-à-dire que des fois, tu peux faire ta Torah, tes mitzvot, ta kashrout, ton Shabbat, tout ce que tu veux. Et ça t'amène pas un épanouissement.
Oui, non, mais quand tu recherches vraiment quelque chose, là, c'est pas un cadeau.
Mais il faut sentir que tu l'as trouvé.
Oh, mais quand tu l'as trouvé, t'es sûr qu'il va l'apprécier.
Justement, t'as pas le sentiment que tu l'as trouvé. T'as mis les tefillin ce matin?
Oui.
D'accord. T'as senti que t'étais épanoui?
Mais là, je suis pas à la recherche.
Attends, doucement. T'as senti que t'étais épanoui?
Non, mais je suis pas à la recherche.
T'as mangé cachère maintenant, là?
Ouais.
T'as senti que t'étais épanoui?
Oui.
Attends, excuse-moi. J'ai eu un cours de Torah maintenant. Tu sens que t'es épanoui?
Oui, il y avait un petit peu.
Oui, alors, sachez que c'est un cadeau que Dieu vous donne au début pour vous booster, c'est tout.
Ah, au début, après c'est fini.
Après c'est fini, ça partira. À moins que t'aies tzadik.
Donc c'est bon. Donc
ça va pas finir. Oui, attends, excuse-moi, je m'excuse. Si on vient en cours, c'est qu'on a envie de.
Pas du tout.
Non, je vois pas de ça.
Non, c'est pas que ça n'apporte rien. C'est qu'on ne ressent pas forcément l'épanouissement. C'est comme ça, après on rentre dans une sorte de routine et il y a des choses que tu ressens plus l'épanouissement.
D'accord,
c'est un cadeau que tu donnes.
C'est quand tu vas chercher quelque chose, par exemple, tu te trouves super loin et tu es absolument rentré chez toi avant Shabbat et tu sais que dans le temps, logiquement, c'est pas possible. Ah, c'est Dieu, t'arrives un truc. Ben, je certifie qu'on t'arrive avant l'heure.
Tu veux trouver un cas extrême. Tu veux trouver un cas extrême. Oui, j'ai compris.
Non, tu vois, il y a des cas où.
Il y a des cas où. J'ai pas dit qu'il n'y a pas. Mais j'ai dit que c'est pas un but. C'est pas un but. Ça veut dire, c'est pas un indicateur pour savoir est-ce que j'avance dans la Torah ou pas.
Ah non.
Tu comprends? Des fois, tu peux avoir. Ça te fait rien. Je mets les tefillin, ça m'a rien fait. J'ai fait toutes les kavanotes avant, je me suis préparé. Je mets les tefillin, ça m'a rien fait.
Pas pareil.
J'ai pas senti que ça m'a amené quelque chose. C'est pas un indicateur que ça se passe mal.
D'accord.
C'est un cadeau que des fois Dieu te le donne, des fois Dieu te le donne pas. C'est comme ça. Par contre, apprendre à avoir la soif d'Akadosh Baruch Hu, ça on va étudier aujourd'hui et ça on va voir que c'est accessible. Regardez. Donc on va prendre, on est à la page 252. Tiens, Yves Santania.
Là on est qu'à ligne.
Alors on est à côté du, on a la ligne qui commence par Véhachénit. Page 252, un peu avant le milieu de la page. Véhachénit. 18, vers le milieu, ouais.
Là, tu es.
Un peu avant le milieu. Si. La ligne qui commence par Véhachénit.
Oh,
tu as voilà, juste là.
Voilà,
la Véhachénit. Vous avez?
Ah, d'accord. Ah, oui, d'accord. Oui, ça, oui, je sais pas. Je
À droite de la page.
Je me repère un peu par rapport.
Véhachénit, quelle est la deuxième catégorie d'amour? Celle qui est plus accessible à nous et qu'on peut s'entraîner pour l'avoir. On va donner des techniques aujourd'hui. Hi, a ava, veta ava, shia nefesh mit ava, veo evet. Vachafetza, les Tovka, Vachem. Ça, c'est quoi la deuxième catégorie d'amour, celle que tout le monde peut accéder à ça? C'est l'amour de la recherche. Ça veut dire avoir envie d'accéder à quelque chose. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par exemple, t'as une personne qui va venir à un cours de Torah, qui va essayer de comprendre, qu'il a envie d'avancer. Ça veut pas dire forcément qu'il va réussir à avancer. Mais cette envie d'avancer, ça c'est quelque chose qu'on peut arriver. Avancer concrètement, je sais pas si on va réussir. Mais l'envie d'avancer, c'est déjà un but en soi. C'est extraordinaire ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Vous savez, dans le monde du business qu'on vit aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel on veut du résultat. Celui qui n'a pas de résultat, on lui dit, écoute, t'as beau avoir envie, nous on veut du résultat. T'as amené le résultat, t'as pas amené, au revoir. Ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est un cours très important. On va expliquer que le fait même d'essayer, c'est déjà extraordinaire. Et que quelque part, il y a des gens qui vont toute leur vie essayer sans arriver ce qu'ils voulaient.
On avait vu ça.
Par exemple, t'as une personne, il s'est mis un but, je veux, avant de mourir, savoir lire une page de Gemara tout seul. Probablement, il n'arrivera pas. C'est très possible qu'il n'arrivera pas.
On avait vu, tu avais dit.
Alors quoi?
Pour le réveil, tu avais dit pour l'éveil.
On avait vu. Non, là, c'est une autre notion qu'on va développer aujourd'hui, tu vas voir. Ce qu'on va t'expliquer aujourd'hui, c'est que le fait même d'essayer, c'est déjà un but pour un Kadosh Baruch Hu. Donc ça n'a rien à voir avec la manière comment le monde voit la chose. Rien à voir. Le fait même d'essayer, le fait même d'avoir eu l'amour de dire je vais essayer, d'avoir la soif, même si concrètement j'ai pas réussi à boire le verre d'eau, le fait même d'avoir déclenché en moi une soif vers la Torah, c'est déjà un grand niveau.
Mais est-ce qu'il a avancé ou pas?
Le fait même d'avoir une soif, c'est déjà un avancement. Bah oui.
Oui, mais concrètement, il n'a pas avancé parce qu'il n'a pas réussi.
Justement, je comprends ton point de vue. On a du mal à réfléchir comme ça parce qu'on vit dans un monde de résultats. Dans lequel on te dit, est-ce que tu as amené le chiffre ou tu n'as pas amené le chiffre? Tu n'as pas amené le chiffre, bon, bah, ça veut dire que ça ne nous dérange pas l'effort que tu as fourni. Mais chez Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas comme ça. Et ce n'est pas comme ça qu'Akadosh Baruch Hu analyse notre judaïsme. Akadosh Baruch Hu mesure notre judaïsme par rapport au niveau de laisser l'effort qu'on a fourni pour essayer. Même si on n'a pas réussi.
C'est dangereux ça, parce que ça double tranchant, parce que tu peux toujours te dire, je vais essayer. Ouais, de toute façon, si je fais pas, c'est pas grave, j'aurais essayé.
Excusez-moi, il y a des choses qu'on essaye vraiment. Mm-hmm. On fait la vera, chaque fois tu regrettes juste après, chaque fois tu replonges. Et chaque fois c'est sincère, c'est pas du bluff. Il y a des choses qu'on n'arrive pas, qui prennent des années, et qu'il y a des choses qu'on n'arrivera pas. Par exemple, je vous donne un exemple. Imaginez une personne, ça peut nous arriver à tous, imaginez une personne qui sent des fois qu'il est touché par la colère. Et il sait que c'est pas bien. Il sait que c'est lui cause du tort et qu'après il dit des choses qu'il voulait pas dire. Ça nous arrive à tous, on regrette ce qu'on a dit quand on était en colère. Tu regrettes après, tu dis je veux plus recommencer. Et pourtant tu retournes dans le panneau. Pourquoi tu retournes dans le panneau? Pourtant, alors qu'est-ce qui s'est passé ici? T'avais la soif d'arrêter.
Faut prier.
Mais est-ce que t'as réussi à arrêter?
Non.
Non,
parce que la colère c'est spécial. Tu prends
mais déjà, avoir la soif d'arrêter, comme on expliquera plus tard, il y a un proverbe en hébreu qui dit savoir la maladie, c'est déjà 50% de la guérison. Ça veut dire le fait même d'avoir la soif d'aller vers un endroit, le fait même de savoir que c'est pas normal comme je suis, il faut aller là-bas, il faut arriver à cette destination. Le fait même de savoir que comme je suis c'est pas normal, c'est déjà 50% de la solution. Je sais pas, j'ai pas fait, hein. Comme ça ils disent les...
Celui qui va arrêter de fumer, il dit je vais arrêter et il continue.
Pourquoi?
Il n'arrive pas.
Mais est-ce qu'il est conscient que c'est pas bien?
Il est conscient parce qu'il se dit qu'il va arrêter. Qu'il veut arrêter.
Pourquoi il veut arrêter?
Parce que c'est pas bon.
Parce que?
Pourquoi c'est pas bon?
C'est pas censé.
Mais si c'est bon, ça donne du plaisir.
Ouais, ouais, c'est une que c'est pas bon pour la santé.
Tout le monde dit que c'est pas bon, c'est évident.
Tout est bon, mais moi, avec modération.
Parce que moi, je vais me dire demain matin, je fais un effort, je vais à la synagogue.
Oui.
Et si je vais pas, de toute façon, j'ai eu l'intention, c'est pas grave.
Il y a Gatti.
Ah oui, c'est pas ton parti. Ah oui, il faut entrer dedans, oui. Oui, t'as raison, après, tu fais.
Non, si t'as une personne qui te dit. J'ai cherché et j'ai pas trouvé. Non, ouais, c'est tu pas peux pas le croire. Ça veut dire quoi, j'ai cherché et j'ai pas trouvé? Ça veut dire, j'ai cherché et j'ai pas trouvé le but. J'ai cherché, mais je trouve pas le but. Maintenant, le fait que pour arriver au but, ça va prendre du temps. Et que, en chemin, je vais m'arrêter.
Au fond, il veut pas y aller.
Quelqu'un qui dit, j'ai essayé de trouver mon but, j'ai pas trouvé.
Ça, c'est faux.
Donc, alors, tant que tu... Maintenant, une fois que tu connais déjà ton but, ça te prend des années pour arriver et que tu vois que c'est très difficile et que tu vois que tu n'atteins pas forcément tes objectifs, c'est pas un signe découragé. Il faut pas se décourager pour ça. Ça nous arrive à tous. D'accord? Quand on se marie, quand on est à la yeshiva, quand on est à l'école, on se met des objectifs. Allô? Très souvent, on n'arrive pas à nos objectifs. Tu dis, le fait que tu as eu un objectif, pour un Kadosh Baruch Hu, c'est déjà très important. On va développer maintenant. Donc, Litzror, Bitzror, Hachaim, si vous voulez bien, on va rentrer, oui, vous allez voir, bien rentrer dans les détails. Litzror, Bitzror, Hachaim, Vekirvat, Elokim, Tov, Lameod, ou Botarpots, Vera la Lameod, Leidrachek, Menuit Barech, Liot, Mechita, Shel Barzel, Meachitsoni, Mavseket, Razveshalom. D'accord? J'explique à l'oral ce qu'il dit ici. Il dit que, avec les techniques qu'il va nous donner aujourd'hui, on peut réussir à faire en sorte que j'ai une soif de rajouter dans la Torah, de rajouter dans les mitzvot, et ça me dérange quand je fais une avera. Ça ne va pas nous rendre des tzadikim. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera que des mitzvot toute la journée, et qu'on arrêtera de faire des averot. Ça, il faut être tzadik pour ça.
Que ça nous dérange, c'est en nous, tu l'avais dit.
Alors justement, ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, c'est que arrêter de faire des averot et faire que des mitzvot, ça c'est pour les tzadikim. C'est-à-dire que probablement, chacun de nous, enfin en tout cas je parle pour moi, qui est autour de la table, sauf si on devient tzadik, probablement jusqu'à notre dernier jour, on fera des mitzvot et des averot. Ça s'arrêtera pas. Faut pas chercher, ça s'arrêtera pas. On changera peut-être de gamme d'averot, c'est tout, mais ça s'arrêtera pas. Par contre, ce qu'on peut réussir à faire, c'est réussir. Non, c'est pas grave. Dieu nous a créé comme ça. Qu'est-ce que tu veux, nous a créé comme ça?
Oui, des décrets comme ça, mais il y en a bien qui ont surmonté ça.
Moi, je croyais que depuis le temps,
impossible. Il y en a bien qui ont surmonté.
Tu peux pas. Le maximum que tu pourras faire, c'est arrêter de faire d'Aveyrot. Mais tu pourras jamais arrêter de vouloir faire d'Aveyrot.
De vouloir. Non, impossible. Si, non, tu peux arrêter de vouloir.
C'est impossible.
On n'a pas compris là. Excuse-moi.
Imagine-toi que le docteur, il me dit, d'accord, le coca, c'est pas bon pour ma santé.
Oui.
D'accord. Je peux arrêter de boire du coca.
Oui.
Mais j'arrêterai jamais d'avoir envie du coca.
Ah, d'accord.
Ah. Oui,
okay. Si j'étais un tzaddik, là, j'aurais pu arrêter et de boire le coca et d'avoir envie du coca.
C'est une sacrée volonté.
C'est pas une sacrée volonté. C'est soit tu as cette option dans ta neshama, soit tu n'as pas cette option. Celui qui n'est pas tzaddik n'a pas cette option. Donc ça ne s'arrêtera pas. Il ne faut pas chercher. Ça ne s'arrêtera pas.
Pour kachar, c'est pas vrai. Quand tu manges pas kachar au début, tu as envie de manger le porc-pain. Puis quand tu progresses après, tu manges
cachère,
t'as plus du tout envie de manger.
Compris, donc
ça veut...
Je vais expliquer.
Je suis pas certain.
Alors ça veut dire que ton moteur de Aveyrot, il va passer dans autre chose. Mais ça arrête.
Au contraire, il y a certaines choses qu'il a mangées.
Il n'y aura jamais une phase dans ta vie, à moins qu'il soit tzadique.
Ah non, non.
Il n'y aura jamais.
Excusez-moi. Pas moi, mais je connais quelqu'un si.
Moi, je mange pas cachère.
Ah.
D'accord. Mais ce que je vais expliquer, c'est qu'il n'y aura jamais quelqu'un qui n'est pas tzaddik, il n'y aura jamais une phase dans sa vie dans laquelle le Yitzhara ne lui proposera pas d'Aveyrot. C'est impossible. Alors ce sera peut-être une fois la cache-route, une fois ça sera à faire des bêtises, une fois ça sera je sais pas quoi. Mais ça veut dire que c'est le moteur du Yitzhara, on ne pourra jamais l'éteindre. Par contre, ce qu'on peut... Autre chose. Parce que peut-être c'est pas un grand amateur de nourriture. Moi j'entends des gens, tu sais, je te promets...
Non, mais c'est ton exemple.
Non, non, mais attends, parce que moi j'entends des gens, par exemple. Moi, il y a quelqu'un qui m'a parlé il n'y a pas longtemps. Il m'a dit avant, il buvait tous les vins. D'accord. Et je peux te dire qu'encore, ça fait 15 ans qu'il est chômeur Shabbat, qu'il fait la cache-route. J'entends Yonel. Et il me dit que jusqu'aujourd'hui encore, il veut un bon vin. Il ne fait pas parce que bon, il dit, mais il est en cachère, il ne sait pas faire des vins. Alors, je sais pas ce que c'est un bon vin, un mauvais vin. Hein hmm c'est quoi
Non, mais. Attends. Ah, si, non, des bons vins, c'est pas, il y a des bons vins, je connais pas. Il y a des très bons vins, oui. Moi, je connais pas, mais c'est qu'il y a des très bons vins.
C'est
un bon
vin,
j'entends.
Un bon vin, c'est un bon vin.
Oui, il m'a dit le connaisseur.
Bon, alors, donc je reprends le sujet. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que. Arriver à un niveau dans lequel j'ai réussi à être épanoui par mes mitzvot et je ne veux plus faire d'Aveyrot, ça probablement n'arrivera pas. Peut-être, en tant que cadeau, Dieu fera que quelques jours, ou quelques mois, ou quelques années dans notre vie, on sera épanoui dans les mitzvot et on ne voudra pas faire d'Aveyrot. Mais rappelez-vous, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui peut partir. Ça veut dire que probablement, la majorité de notre vie, on aura envie de faire des mitzvot comme des Aveyrot. Par contre, ce qu'on peut obtenir, on peut réussir à se travailler pour être dérangé quand on fait une avéra et être content quand on fait une mitzvah. Ça, on peut le faire. Mais ne plus être intéressé par la avéra, être épanoui que par la mitzvah, ça, c'est un cadeau que Dieu nous donne de temps en temps. On va développer dans les détails.
Pardon, tu parlais du tzaddik.
Oui.
Lui, il est dans cet état constant.
Constant. Tzaddik, là, c'est un état constant. C'est une option. Soit tu as l'option, soit tu n'as pas l'option. Tzaddik, il est l'option de faire la avéra et l'option de vouloir faire la avéra. On, off. Et off. Il passe en off. Parce qu'il a une neshama. Parce que. Mais attendez, autour de la table, il y a peut-être. Autour de la table, il y a peut-être quelqu'un qui deviendra un jour tzaddik. Parce que être tzaddik, c'est une neshama.
Depuis le temps qu'on vient ici, on est tous tzaddik.
Parce que être tzaddik, on explique dans les premiers chapitres d'Ania, fait longtemps qu'on a étudié ça. Être tzaddik, c'est une. On dit que c'est être tzaddik, c'est une neshama qui est conçue pour devenir tzaddik. Ça veut dire que tu peux avoir une personne qui est un grand rachat aujourd'hui, mais qui a une neshama qui est conçue pour devenir tzaddik. C'est-à-dire qu'il a le moteur qui est conçu pour que s'il fait ça, plus ça, plus ça, plus ça, et bien à un moment, pac, il y aura le déclic et va devenir tzaddik. T'as une autre personne qui va bosser 20 fois plus que lui, et il sera pas tzaddik. Parce qu'il a pas l'option tzaddik.
Ah, d'accord.
Ah, parce que je vois qu'il me regarde comme ça, il dit.
Pour Mika, t'as une chance.
Ça te rassure ou ça t'angoisse?
Ça me rassure.
Mais sur combien?
Non, mais dis là. Mesurer l'effort, c'est déjà.
Voilà. Donc, ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, c'est comment réussir à créer en soi un dérangement quand je fais une avéra et être content quand je fais une mitzvah. Ça ne veut pas dire que je ne ferai plus d'avérot, mais au moins créer cette soif. D'accord? D'être dérangé quand je fais une avéra et d'être content quand je fais une mitzvah.
Content, je peux pas parce que c'est un cadeau.
Non. Rappelle-toi, quand je dis être content, ça veut dire d'être tellement épanoui que t'as plus envie de faire la verrote.
Pendant que
Mais là, on parle de la mitzvah.
Justement, c'est que t'es tellement épanoui que tu veux que ça maintenant. C'est bien. T'as tout ce qu'il te faut. Pourquoi une personne peut faire une mitzvah et 5 minutes après, il fait une avéra? Est-ce que quand il a fait la mitzvah, il voulait la faire?
Oui.
Est-ce que quand il a fait la avéra, il voulait la faire?
Ah oui.
Donc ça veut dire qu'il était ni épanoui dans la mitzvah, ni épanoui dans la avéra. Parce qu'une personne qui est épanouie ne va pas voir ailleurs. On est d'accord? C'est un principe, c'est clair, hein, je veux dire, c'est mathématique.
Ouais,
t'es épanoui, tu vas pas voir ailleurs. T'as tout ce qu'il te faut, tu vas pas voir ailleurs.
Non, c'est
si tu vas voir ailleurs, c'est que t'as pas tout ce qu'il te faut.
Non, non, tu es dérangé.
Le rapport, c'est peut-être pas dans le même champ des fois.
Ça change pas.
Un
la Neshama, il y a une Neshama. Ah, c'est ce qu'on va développer. Roar Shtout, on va développer. Khazak.
C'est pas le même champ.
Roar Shtout.
C'est pas le même champ. Tu dis.
Ça vient avec la guerre sérieuse.
Ah oui,
c'est ça. Des fois, ça peut être sur deux choses qui
n'ont rien à voir. C'est la même Neshama.
C'est pour la première. C'est épanoui dans le.
J'ai compris, oui.
Donc, ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles je suis épanoui. Des choses sur lesquelles je suis épanoui.
De la table, on a trouvé le sadique.
Non, épanoui.
Quand je dis épanoui, ça veut dire comprenez dans le sens. Que j'ai pas besoin de chercher ailleurs, je suis bien, j'ai envie de faire aucune avéra. D'accord ? Il y a des périodes dans la vie où on peut être comme ça. T'es tellement bien que t'as pas envie de faire d'avéra, t'es bien, t'es bien.
Ouais, mais t'es épanoui parce que tu vas la refaire.
Il y a des périodes dans lesquelles tu peux être comme ça, mais ça
c'est
passe.
Pas tout à fait.
Et c'est pas le but, c'est pas le but d'Akadosh Baruch Hu qu'on soit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il fait ça que pour nous booster, c'est pas le but. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait envie de faire d'avérot, parce que c'est ça notre travail, c'est d'avoir envie et de pas la faire. Alors on va développer parce qu'on n'a pas avancé dans les mots là. Il dit, Vea Avazo, Mousteret Belev Kal Israël. Il n'y a aucun juif qui peut dire, je n'arrive pas à aimer Dieu, je n'arrive pas à avoir envie de faire plus des mitzvot, je suis dérangé quand je fais une avéra. Ça n'existe pas un juif comme ça. Il y a un amour caché au fond de chaque personne du Ham Israël.
Caché.
Caché. Il est en nous. Même le plus grand rachat que tu peux trouver dans la terre, si tu le trouveras, il aura toujours au fond de lui un amour caché qui fait que, quand il fait une mitzvah, il est content. Quand il fait une avéra, il est dérangé. Seulement, des fois, cet amour, il est caché. Il faut décrasser un petit peu pour le ressortir. Mais il est là. On va développer. Afilu vareshaim, même chez les reshaim. Ar seulement. Mipne, shei mousteret. Pardon, umimena baalaem acharata. Et c'est de ça que vient aux reshaim les regrets. La Gemara, elle dit, comme on a dit brièvement la semaine dernière, la Gemara, elle dit que les reshaim, leur vie est pleine de regrets. Pourtant, nous, on croit que les reshaim, c'est les grands kiffeurs. D'accord ? C'est une apparence. Les Rechaïm, leur vie est pleine de regrets. Pourquoi leur vie est pleine de regrets ? Parce que, étant donné qu'ils ont une Neshama, avec la Neshama, tu peux rien faire, tu peux pas l'enlever. La Neshama, elle est à l'intérieur. Quand il fait une avéra, ça le dérange. Donc il sera toujours en train de regretter. Maintenant, il sera toujours en train de kiffer aussi, mais toujours en train de regretter. Toujours. Avéra, regretter. Avéra, regretter. C'est horrible. D'accord ?
C'est
écrit que c'est une bracha qu'Akadosh Baruch Hu a donnée aux Juifs, qu'on pourra jamais kiffer une avéra jusqu'au fond.
Donc c'est les goy, ils les kiffent ?
Ils n'ont pas ce blocage-là.
Non, parce que
c'est une bracha que tu nous as donné.
C'est pas forcément une avéra pour eux.
Non, mais même il y a des choses, c'est une bracha que Kadosh Baruch Hu.
Oui,
il y a des choses qui sont pas forcément bien.
Ça dépend des civilisations.
Il a bien donné cette venue noire, donc ça, sur ça, il est dérangé quand même.
Te paraît absolument normal.
Je vais donner un exemple concret, d'accord, que j'avais lu une fois. C'est-à-dire, par exemple, un goy qui trompe sa femme sera beaucoup, c'est interdit dans cette loi noiride, il sera beaucoup moins dérangé qu'un juif qui trompe sa femme.
C'est ça.
Parce qu'un juif, il a une neshama, et cette neshama, tu peux rien faire. Pourtant, c'est la même chose, ils ont fait le même acte. D'accord, c'est un cas qui a écrit ça. Parce qu'un juif, il a une neshama de série. Quoi qu'il arrive, en lui, il a cette neshama qui a cette soif, qui est dérangée quand on fait une avéra et qui est contente quand on fait une mitzvah. Seulement, comme on a dit, des fois, cet amour est encrassé, donc il faut le décrasser. Ça, on va expliquer, on va donner les techniques. Donc, ach, mitne shei musteret venelma v'prinat galut begouf, are aklipa yichola lishlot alea. Le problème de cet amour, c'est que cet amour est des fois caché. Cet amour qu'on a en nous, cette soif qu'on a en nous, rappelez-vous, il y a deux choses. Il y a la soif et avoir trouvé. Avoir trouvé, c'est pour le tzadikim. Mais la soif, ça, on l'a en nous. Seulement, des fois, malheureusement, c'est encrassé. Et comme c'est encrassé, donc le Yetzirah, il fait ce qu'il veut de moi. Je suis comme un zombie. Pourquoi ? Parce que je ressens plus cette soif, je ressens plus cette passion. Mais c'est pas parce que je la ressens plus qu'elle n'est plus là. Ce que t'as dit David tout à l'heure, Vezehu Ruach Shtout Amachati Le'Adam. C'est ce qu'on appelle le Ruach Shtout. C'est quoi le Ruach Shtout ? Le Ruach Shtout, c'est le vent de folie. C'est le vent de folie qui cache cet amour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'une personne fait une avéra, c'est très bien au moment où il fait l'avéra qu'il va la regretter après. Ça veut dire que s'il écoutait ne serait-ce que son cerveau, il aurait dit, ne fais pas ce que tu vas faire, tu sais très bien, dans 5 minutes après, tu vas regretter. Pourquoi tu l'as fait ? Parce que c'est écrit, la Gemara, elle dit, qu'au moment où une personne fait une avéra, il a un esprit de folie. Il est animé d'un esprit de folie. C'est quoi cet esprit de folie ? C'est le Yetzer Hara qui fait tout pour encrasser et pour bloquer pour verrouiller l'amour que la Neshama a vers Akadosh Baruch Hu. Cet amour qui fait que ni je veux faire une Avera et je veux faire des mitzvot, qu'est-ce qu'il fait Yetzara quand il veut me faire une Avera? Il me rend fou. C'est-à-dire quand il me rend fou, ça veut dire il fait tout pour que je réfléchisse pas.
C'est criminel après avoir tué. Après, comme... bah ouais, mais après, si... jusqu'où, c'est quel degré? Mais
on a
un degré de conscience.
Mais attends, même, tu dis pas vente folie. On a en nous, une seconde, on a en nous un Yetzara et un Yetzara.
Je comprends, mais tu dis vente folie. C'est comme si c'était un élément extérieur. Il y a quand même une part de.
Mais après, la Torah te donne, la Torah nous donne les médicaments pour maîtriser cette vente folie.
Il y a une part de responsabilité. Combien même il y aurait un vente folie? J'ai l'impression qu'un vente folie, c'est venir excuser.
Ah oui, ça oui, c'est
excusable. On avait fait un cours une fois sur ça. Que la responsabilité,
c'est un trop d'éléments extérieurs, quoi.
La responsabilité du vent de folie n'est pas au moment de la Vera. Et avant la Vera. J'explique ce que je veux dire. Une fois que je suis déjà devant la Vera, d'accord, même si je veux m'arrêter, je peux plus m'arrêter. C'est-à-dire celui qui joue avec les barrières comme ça, qu'il avance, je m'arrêterai dès la dernière seconde, et à la dernière seconde, il a craqué. D'accord? C'est pas maintenant qu'il a craqué. C'est déjà depuis la première fois quand il a commencé à jouer, c'est là qu'il a craqué. Parce que quand il a commencé à jouer, il pouvait maîtriser. Quand il arrive juste devant, il ne peut plus s'arrêter. Donc qu'est-ce que te dit la Torah? La Torah te dit bien sûr que quand tu es devant, tu n'arriveras pas à t'arrêter. Il fallait t'arrêter plus tôt. Donc c'est pour ça qu'on va me punir. On ne punit pas parce que j'ai eu un vent de folie. On punit parce que j'ai pas été assez intelligent pour m'arrêter à temps. Tu comprends? Mais concrètement, quand j'arrive devant la Avera, même si je veux m'arrêter, des fois je ne peux pas t'arrêter. Parce que c'est déjà trop tard. On peut toujours si on veut. Mais des fois c'est déjà trop tard. Après tu dis c'était pas moi.
Après, il n'y a plus d'Averot si j'arrive toujours à m'arrêter.
Eh ben non, c'est ça. On peut pas s'arrêter un moment. Après, c'est le Yitzhara qui prend le contrôle de ton corps. Tu peux rien faire.
Il faut déjà être un petit peu religieux. C'est celui qui est vraiment un rachat.
Chacun a son niveau. Après, on rentre pas dans les détails maintenant. Chacun a son niveau. Une chose qui pense être interdite. Chacun a son niveau. Après, on rentre pas dans les détails. Par exemple, pour un, ça peut être faire Kippour. Pour l'autre, ça peut être faire Shabbat. Pour l'autre, ça peut être manger Kacher. Pour l'autre, ça peut être manger mieux Kacher. Chacun a son niveau. Il a quand il commence à jouer et il a quand il va craquer. Ça, c'est le roi Shtout, ce qu'il dit ici. Mais c'est quoi ce vent de folie? C'est justement quand le Yetzer Hara cache et bloque cet amour que la Neshama a vers Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas parce que le Yetzer Hara a caché cet amour que cet amour n'est plus là. Il est toujours là. On peut pas l'enlever, c'est impossible. Personne, aucun rachat sur terre peut dire « J'ai plus aucun sentiment envers Dieu, c'est impossible. » On peut pas divorcer de Dieu. Et Dieu peut pas divorcer de nous. Vous savez pourquoi Dieu peut pas divorcer de nous? Parce que nous, on peut pas divorcer de lui. Une fois, c'est écrit comme ça. Une fois, c'est écrit dans un midrash, c'est écrit qu'une fois, il y avait un Tana qui a dit comme ça à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, tu peux pas nous divorcer parce que nous, on peut pas divorcer de toi. Même s'il se convertit, il rentre dans l'église 50 fois et qu'on lui verse 20 fois de l'eau, ça changera rien. Bien sûr, tu peux rien faire. Tu peux pas divorcer de Dieu. Impossible. Tu peux cacher cet amour, mais il sera toujours là. Impossible de l'enlever. Valken, c'est pour ça. Alors, maintenant, c'est quoi les techniques? C'est quoi les techniques pour développer cette soif? Pour faire en sorte que j'ai envie de faire une mitzvah et j'ai pas envie de faire la avera. Valken, c'est pour ça. Avodat Adam Lekonoi. Quel est le travail principal de l'homme envers son créateur? C'est l'Eitrazek ou l'Eitgaber à la Klipa Bakol Mikolkol. Comment on fait pour arriver à ça? Comment je fais quand je sens que j'ai pas la passion? Ça me dérange pas quand je fais une avera, pas spécialement, et je sens pas un plaisir quand je fais une mitzvah. Alors, tu dis, si ça te dérange pas, on va marcher par étapes. D'abord, la première chose, c'est quoi? C'est qu'il faut essayer au maximum de renvoyer le Yetzer Hara de ce qu'on appelle les levushim du corps, les vêtements du corps. Je vais expliquer ce que ça veut dire. C'est quoi un vêtement? Un vêtement, c'est quelque chose que tu peux mettre et enlever. Je peux le mettre, je peux l'enlever. D'accord? C'est-à-dire, je le mets, je l'enlève, je le pose dans le placard. C'est quelque chose que tu peux mettre et enlever comme tu veux. On dit que chez chacun de nous, on a des vêtements. C'est quoi, on a des vêtements? Ça veut dire, c'est des choses qui sont neutres. Qui sont ni cachère, ni pas cachère. C'est un vêtement, tu en fais ce que tu veux. Tu veux le mettre sur Yetzer Hara, tu mets sur Yetzer Hara. Tu veux le mettre sur Yetzer Tov, tu mets sur Yetzer Tov. C'est quoi les vêtements? Il y a trois vêtements. La pensée, la parole, l'action. Trois choses. Marshava, la pensée, Dibour, la parole, Maasé, l'action. J'explique ce que ça veut dire. La pensée. Est-ce que la pensée, c'est quelque chose de cachère?
Oui.
Ni oui, ni non.
Mais si,
c'est un vêtement. Je peux l'utiliser pour penser des choses cachères, pour penser à un divertora. Je peux l'utiliser pour penser à une bêtise. D'accord? Est-ce que la parole, le dibour, c'est quelque chose de cachère? Pareil. C'est ni cachère, ni pas cachère. Je peux dire un divertora, dans ce cas-là, je l'ai mis dans un vêtement cachère. Je peux dire du lachanara, dans ce cas-là, c'est pas cachère. Pareil pour marasser. Marasser en hébreu, c'est l'action. L'action avec mes mains, avec mes pieds, avec mon corps. Est-ce que c'est cachère ou pas cachère? Ça dépend. C'est un vêtement. Tu en fais ce que tu veux. Tu veux l'habiller dans quelque chose de cachère, ce sera cachère. Tu veux l'habiller dans quelque chose de pas cachère, ce sera pas cachère. Il t'explique. Il te dit, quelle est la technique pour contrer le Yetzer Hara ? La technique numéro 1 pour contrer le Yetzer Hara. Contrer le Yetzer Hara et s'habituer à au moins être dérangé quand on fait une Avera et vouloir faire une mitzvah. C'est déjà de commencer à se travailler sur les trois vêtements du corps. Oublie tout le reste. Oublie ta neshama, oublie toutes les mitzvot. Déjà, habitue-toi à essayer de faire en sorte que ta pensée, ta parole et ton action soient le plus cachère possible. Ça veut dire concentre-toi sur le concret, sur le réel. Maintenant, ce que ta neshama, elle pense, t'es dérangé, pas dérangé, il te dit ça, on verra après. D'abord, il faut déjà passer au concret. Il faut déjà commencer à agir. Tu vas commencer, par exemple, tu sais que t'as un problème avec la pensée, essaye de faire en sorte de nettoyer au maximum ta pensée. Tu sais que t'as un problème dans la parole, tu dis beaucoup de bêtises, essaye de nettoyer au maximum ta parole. Ça, c'est la première étape. Vous voyez qu'on rentre même pas encore dans ce qu'on... Nous, qu'est-ce qu'on va obtenir ? On va obtenir que quand je fais une mitzvah, je suis content, quand je fais une avera, je suis dérangé. Il te dit, ça, tu n'y penses pas pour l'instant. Pour l'instant, tu fais en sorte de nettoyer les trois vêtements de ton corps. La pensée, la parole, l'action. On va dire dans les mots.
Comment tu nettoies ?
C'est un effort constant.
Comme ça, c'est pas par la...
D'accord ? C'est un travail.
Ouais, d'accord.
Chacun à son niveau. Une personne qui sait, par exemple, qu'il a des problèmes avec des pensées pas cachères. Donc, progressivement, il va faire en sorte d'essayer de se travailler sur ça. Une personne qui sait que son piège est dans la parole, dans la colère, ou je sais pas, il dit des bêtises, il dit des mots pas jolis, il va se travailler sur ça. Bien qu'on croit que ça n'a rien à voir, je dis, mais quel rapport? Ça n'a rien à voir. Moi, je vais être dérangé quand je fais une avéra. Quel rapport avec les gros mots que je vais dire?
C'est vecteur.
Quel rapport? Il te dit, c'est très simple. Il te dit, parce que tu as trois vecteurs en toi. Tant que les vecteurs ne sont pas propres, la neshama n'arrive pas à s'exprimer. La neshama, quand elle veut s'exprimer, elle doit avoir des vecteurs, elle doit avoir des conduits d'échappement propres. Le plus propre possible. Et après, la neshama arrive à s'exprimer. Si la neshama n'arrive pas à s'exprimer, c'est parce que ses conduits sont sales. C'est-à-dire, la pensée n'est pas très cachère, la parole n'est pas très cachère, l'action n'est pas très cachère. Donc, tu te dis, numéro un, avant même de penser à ta neshama, il faut d'abord vidanger, il faut d'abord essayer de faire en sorte que la pensée, la parole et l'action soient le plus propre possible. D'accord? Chacun à son niveau. On dit que le plus dur, c'est la pensée.
Le plus dur, c'est la pensée.
Ouais. Parce que la pensée, ça s'arrête jamais.
Exactement.
L'action peut s'arrêter plus facilement. La parole, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Parce que la pensée, on s'arrête jamais. C'est très difficile de la penser. Parce que la pensée, quand tu penses de ne pas penser à quelque chose, t'es déjà en train de penser à la chose.
Ah oui.
Donc il faut penser à autre chose. Mais tu penses à autre chose et tu penses que tu ne penses pas à...
La pensée d'abord. Parce qu'en fait,
la pensée,
rien, c'est rien, mais moi, je rien.
Elle te fait...
Trois fois rien.
La pensée, elle te fait... Oui, c'est vrai. Mais des fois, on ne t'y arrive pas. Des fois, La pensée, c'est ce qui est lié directement à la neshama. C'est pour ça qu'on dit que chez les chassidim, on dit que quand ils faisaient des rêves pas cachers, le lendemain, ils étaient chouva. Ils disent, pourtant, c'est un rêve, qu'est-ce que je fais? Je dormais. Il dit non. Il dit, parce que même un rêve, si le rêve est arrivé, c'est parce que probablement pendant la journée, on a pensé à ça. Oui. Ça a travaillé. Ça vient pas de nulle part, un rêve. C'est pas Dieu qui t'a envoyé ce rêve. Ce rêve, c'est parce que t'as fait quelque chose. Donc, on va développer. Donc, il te dit, pour faire en sorte de développer cet amour, cette soif qu'on a vers un Kadosh Baruch Hu, est-ce que le fil est clair ou je repasse? C'est clair? Rappelez-vous, on essaye de comprendre comment développer cette soif vers un Kadosh Baruch Hu. Ça, tout le monde peut arriver. Cette soif qui va faire que je suis content quand je fais une mitzvah, ça me dérange quand je fais une avera. Tu dis, première chose, il faut nettoyer tes conduits au maximum. Dans les mots. Ve'alken, c'est pour ça que je reprends. Oui, Avodat Adam.
Il m'a donné juste les trois choses. Pour arriver à la neshama.
Oui.
Mais comment je fais pour nettoyer ces choses-là?
Ça, il va expliquer. D'accord? Valken, c'est pour ça. Avodat Adam le kono, il est itrazek ou les itgaber, à la klipa, bakol, mikolkol. Ça commence par quoi? Le travail commence par se renforcer, ou les itgaber. Dans le mot les itgaber, on a le mot gibor. Gibor en hébreu, ça veut dire quoi?
Force.
Puissant. D'accord? La force. Ça veut dire se renforcer, je sais pas comment.
Se renforcer,
c'est deux termes qui veulent dire se renforcer, c'est deux synonymes. À la clipa, bakol, mikolkol. D'essayer de repousser le mal que j'ai en moi, bakol, mikolkol, ça veut dire de toutes les manières possibles. Dans tous les endroits où c'est possible. Il n'y a aucun détail qu'il faut laisser au hasard. Je fais ce que je peux, bien sûr. Daïnou, ça veut dire. Mitrila, les garcha, mais à gouffre les gamrés. Il faut essayer de faire en sorte de renvoyer le mal au maximum de son corps. Mais machashava, dibou, Vemaase. Machashava, c'est la pensée. Dibour, la parole. Maase, l'action. Parce que tout est lié. Je vous donne un exemple. Imaginez une personne, par exemple, qui sent que il met pas toujours les tefilines et il sent que ça le dérange pas spécialement. Tu lui dis, tu sais quoi, commence à nettoyer ta pensée, ta parole et ton action. Peut-être qu'il y a un truc, t'as des pensées pas cachères. Il dit, mais quel rapport entre les pensées pas cachères et les tefilines? Il n'y a pas de rapport. Il dit, si, il y a un rapport. Parce que comme les conduits sont pas propres, donc automatiquement, Teneshama a du mal à s'exprimer. Teneshama n'arrive pas à s'exprimer. Comme elle n'arrive pas à s'exprimer, c'est pour ça que ça bloque.
David, il voulait savoir si ça nettoie. Ça.
Pourquoi il y a des voitures dans lesquelles il y a deux pots d'échappement, tout à l'heure, je suis là ce matin, quoi.
Il a dit, il y a quatre pots d'échappement, il a dit, monsieur Bada.
En plus, pourquoi on est...
Parce qu'il y a tellement de puissance qu'il faut deux...
Et si tu bloques un, qu'est-ce qui se passe?
Ah oui,
tu bloques un. C'est la même chose. On a trois vecteurs, tu bloques un pot d'échappement...
Youssef,
bonsoir.
Zach
ou bon?
Maman,
on le connaît.
C'est l'heure de Zach.
Alors, il dit maintenant, va à Hark, donc chez Bemoar, Veram, Achevarim. Donc, il faut d'abord commencer par nettoyer. Pour réussir à ressentir, à être dérangé par une avéra et être content d'une mitzvah, il faut d'abord nettoyer au maximum la pensée, la parole et l'action. Et après seulement, Yuchal Gamken, Leotsi, Mimazger, Asir, Bechozakiad. Après seulement, c'est là qu'il va commencer progressivement. Plus je vais faire des efforts pour bien parler, pour bien penser, pour bien agir, et plus je vais ressentir que ma neshama va s'exprimer, comme il explique plus tard, qu'on sent qu'on devient plus fin. À force de faire de la verot, ça nous rend grossier. Et quand on est grossier, la neshama n'arrive pas à s'exprimer. Quand on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense et à ce qu'on fait, automatiquement, on le sent, on va le sentir, on va sentir qu'on va devenir plus raffiné. On va ressentir qu'on a plus de facilité à ressentir les choses, on est même plus raffiné dans notre manière de voir les choses. Là, il te dit, c'est là que la neshama, maintenant, va commencer à être dérangée par la avérote que tu fais. Tu ne vas pas encore être attiré par les mitzvot, mais tu vas sentir un certain malaise par rapport aux avérotes. Regardez, c'est la grande psychologie qui dit ici. On a un problème. T'as un patient qui arrive devant le docteur, devant le rabbin, il dit, monsieur le rabbin, je ressens rien. Ni ça me dérange quand je fais des avérotes, ni j'ai envie de faire les mitzvot. Qu'est-ce qu'il lui dit le rabbin? Il dit, vous allez commencer d'abord par agir. Essayez de nettoyer au maximum pensée, parole, action. Vous allez devenir plus raffiné. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez devenir plus raffiné? Automatiquement, vous allez commencer à être dérangé par vos avérotes. Ça voudra pas dire que vous allez commencer à dire, bon, je vais faire Shabbat, je vais faire les tefilines. Ça t'intéresse pas pour l'instant de faire le Shabbat et les tefilines. C'est pas grave. Tu vas déjà commencer à être dérangé par les avérotes. Tu te sens pas bien, tu sens un malaise. Quand on parle avec beaucoup de gens qui ont fait teshuva, je pense que la majeure partie des gens que j'ai entendu raconter leur teshuva, ça commence toujours par un certain malaise. Il y a un malaise. Ça veut pas dire qu'il est rentré à la synagogue, il a dit, monsieur le rabbin, je vais faire des mitzvot. Ça l'intéresse pas, il sait pas ce que c'est les mitzvot. Il sent un malaise. Pourquoi il sent un malaise? Parce qu'il y a un moment dans lequel il est devenu plus raffiné. Ça peut être les épreuves qui raffinent une personne. Vous savez que les épreuves, ça raffine une personne. Parce que ça nous pousse à nous concentrer vers l'essentiel. Les épreuves, ça raffine une personne. On a des événements dans la vie qui nous aident à voir les choses de manière plus fine et plus profonde. Et donc, quand on arrive à être plus fin et plus profond, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? On commence à être dérangé par des choses qu'on n'était pas dérangé avant. Ça, c'est déjà un très bon point. Ça veut pas dire que je... Alors,
ça divise. Non mais là, même si tu es en train de parler, tu parles de quelqu'un. Oh, prenons le cas d'un, ça existe. Forcément, ça existe. Un juif, qui sait pas qu'il est juif.
J'ai connu.
Pareil.
On a connu ça. Mais oui. J'ai une petite parenthèse. La sœur de mon père, j'ai envie de vous dire ça. Quand elle s'est mariée avec un catholique en Tunisie, avec un soldat pendant la guerre. Donc bon, le type, il était, mon oncle, il était là. Elle s'est mariée avec lui. Donc, elle habitait à Strasbourg, elle s'est convertie. Quand elle s'est mariée, elle s'est convertie. Et toute sa vie, elle a eu des croix et tout dans sa maison. Quand elle est chez elle, elle avait des croix et tout. Jusqu'à quand elle est morte, la pauvre, elle est enterrée dans le cimetière du village.
Chrétien.
Avant de mourir sur la Torah, et Tata Raymond, elle a toujours été malade. Autant que je l'ai connue, elle a toujours été malade. Je sais pas ce qu'elle avait comme maladie, mais elle a toujours été malade. Avant de mourir, elle a dit à ma mère, elle a dit, tu vois, le bon Dieu m'a puni. Parce qu'elle a dit, Béhémet, elle a fait du chemin comme ça, elle a dit, bon Dieu m'a puni pour ce que j'ai fait quand je me suis marié. Bon, en tout cas, elle a eu, voilà, ses petits-enfants, voilà, ils sont juifs. Ils s'appellent Jean-Christian. Qu'est-ce que c'est pour une mise? Qu'est-ce que c'est pour une mise?
C'est rien.
Oui, merci, il va sentir.
Ils sont encrassés à ce moment-là.
Quand il fait une avéraie, ils sont rien du tout.
C'est rien du tout. Vous avez raison.
Cochon, il prend son pied.
C'est rien du tout. C'est pour ça qu'il faut les pousser au maximum. Seulement, il y a une technique. Je vais vous donner la technique. La technique, c'est ce que le rabbi explique. Le rabbi explique que quand un juif fait une mitzvah, même s'il n'a pas envie de la faire, par exemple, je prends un juif dans la rue, je le saoule pour qu'il mette les tefilines. Il le fait pour moi, il le fait pas pour Dieu.
Oui, contre ça.
D'accord ? Et bien, le fait même qu'il fait une mitzvah, ça aide à décrasser. Ça peut être un déclencheur. C'est tout ce qu'on peut faire. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est une personne qui n'a pas du tout la sensibilité du musée du Navera. C'est pas qu'il l'a pas, c'est que c'est encrassé.
Si demain tu vas lui dire, tu sais, t'es juif, hein, il va dire quoi, mais ça va pas. Quoi.
Ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Il
se prend pour un fou.
Exactement, ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Ça lui dit rien. Ça lui dit rien du tout. Je comprends 100%.
Mais lui, comment il. Puisqu'on pense à l'échama, elle est juive.
Quoi ?
Il est né comme ça, il a jamais vu comment ça peut être. Dans toute sa vie, il faudra qu'il revienne encore.
C'est que. Non, ce qui va se passer, c'est que quand il va faire une mitzvah, ou peut-être sans mitzvah, il va ressentir un malaise. Il va ressentir qu'il lui manque quelque chose dans sa vie. Ça va être un appel au Saint-Chama. Ça ne ratera pas. Des fois, quand on l'encrasse, même ça, on n'a pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est arriver à ça, sentir un malaise. Ce qu'il a expliqué ici. Quand tu as la pensée, la parole et l'action qui sont encrassées, même ce sentiment, tu ne l'as pas. Donc tu lui dis déjà, il faut essayer au maximum, on fait ce qu'on peut, de nettoyer ta pensée, ta parole et ton action, et après, automatiquement, tu vas sentir que tu es dérangé par l'avéra. Tu ne sais même pas ce que c'est une avéra, mais tu sens un malaise. Et ça, c'est déjà un bon point.
Ça, c'est parce que tu sais qu'il faut faire ça, mais une personne, Bertrand...
Non. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'il faut faire ça. Tu crois une personne qui commence à faire tes choses, tu crois qu'il sait, il connaît les mitzvot, il connaît rien du tout.
Il est juif, au moins.
Oui, mais il sait pas ce que c'est, les mitzvot.
Bah déjà, rien que de savoir...
Non, mais il sait pas ce que c'est, les mitzvot.
Non, je suis d'accord, mais rien que du fait que tu veux pas, quand tu sais d'où tu viens, tu veux rechercher automatiquement qu'est-ce qu'il y a.
Cherche quoi ?
Ça peut mettre un temps, pas possible.
Cherche quoi ?
Ça peut mettre un temps, mais tu veux chercher, quand peu importe, quelqu'un qui veut de sa religion, qui s'exprime comme ça, il dit, même s'il fait rien, il voit quand même, il dit, mince, je vais quand même, c'est mon origine, on va dire, donc il va chercher un peu cette chose-là. Mais au moins, il va chercher parce qu'il sait qu'il a ça.
Oui, bien sûr.
Mais Birkhala, quelqu'un qui sait même pas, comment tu veux qu'il cherche ?
Il faut le pousser à faire au moins une mitzvah. C'est la seule technique. Une mitzvah, non, même faire une fois une mitzvah. Une mitzvah. Par exemple, je vais te dire plus que ça. J'avais lu une fois un commentaire du rabbi, le rabbi dit, même si tu le pousses à mettre la tzedaka, c'est une valeur universelle la tzedaka. Mm-hmm. D'accord ? Donc lui, il va le faire en se disant, bon, c'est la charité.
Voilà,
d'accord ? Et bien, le fait qu'il a donné la tzedaka, ça l'échama, elle ressent ça, ça peut faire quelque chose. Il y a même une mitzvah que lui, il perçoit pas ça comme une mitzvah.
Mais là, c'est pas...
Non, ça dépasse.
Ouais, mais
c'est
là, ça rentre pas dans cette catégorie, parce qu'il n'aura pas fait ces trois choses. Là, c'est cas particulier.
Les trois... J'ai pas dit qu'il faut faire les trois choses. Il faut essayer de faire un maximum pour nettoyer le maximum. On peut pas... Si on arrive à nettoyer les trois, on serait tous des tzadikim.
Oui, je comprends. Cette personne-là qui avait la tzedaka, ça va le réveiller.
Exactement.
C'est tzedaka qui l'a réveillé. Il a pas fait les trois choses, donc c'est la mitzvah qui l'a réveillé.
Après, voilà, ça va... La majorité des gens qui racontent leur teshuva, de ce que j'ai entendu en tout cas, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai lu, ils témoignent que quand ils sont lancés dans le processus de teshuva, ils ressentaient un certain vide dans leur vie. C'est quoi ce vide ? Ils sentent que ce qu'ils font, c'est, je sais pas, il y a pas de sens. Ils sentent un vide. Ce vide, c'est la neshama qui le donne. Parce que comme ils se sont plus raffinés à ce moment-là, donc ils sentent qu'il manque quelque chose, il y a quelque chose qui tombe pas rond, c'est pas normal, il manque quelque chose. Ça veut pas dire qu'il veut faire des mitzvot, il sent un malaise, c'est déjà très très bien ça.
Mais le malaise, il est tout seul, c'est ça que je veux dire.
Il veut toujours pas faire des mitzvot.
Mais le malaise, il est venu tout seul, c'est ça que je veux dire. Il a pas fait quelque chose de particulier pour qu'il vienne ce malaise.
Il a fait une mitzvah.
Mais il a pas ressenti.
J'ai compris, mais ça fait quelque chose. Okay. C'est pour ça qu'il te dit, si je sens que j'arrive pas,
c'est que
je suis pas assez raffiné, donc je dois essayer de me raffiner dans la pensée, la parole et l'action. Il va développer encore. Zahidou, ça veut dire. Liot, Chazak, Ve'amit, Libo, Bagiborim. Ça veut dire qu'il faut se renforcer. C'est un travail qui va être très difficile. C'est un travail très difficile, on le sait. Liot, Ahava, Mesuteret, Niklet, Begiluira, Bechol, Kochot, Rekanefesh, Evagouf. Ça veut dire qu'il faut essayer de faire en sorte que cet amour qu'on a vers un Kadosh Baruch Hu soit présent dans le maximum des parties de mon corps. C'est pour ça qu'on essaie de diversifier la pensée, la parole, l'action. Pour essayer de raffiner un maximum le corps. Zahinu, ça veut dire Bessechel ou Marshava chez vos morts. On va commencer par le plus simple. Voilà, Jacques, ça répond à votre question. Comment faire pour purifier, entre guillemets, sa pensée ? Comment je fais quand je sais que j'ai une pensée qui pense à beaucoup de bêtises ? Comment je fais pour purifier ma pensée ? D'accord, il donne une technique. Chassechel, il va vous donner une technique très forte. Chassechel, Yarchov, Veitbonen, Tamid, Kefisirlo, Vaskalato, Boborit, Barer. On va essayer de réfléchir, quelques fois par jour, quelques fois par semaine, quelques fois par mois, c'est pas la quantité qui compte, de réfléchir à Dieu. C'est-à-dire quoi réfléchir à Dieu? Il explique. Er Sheou, Chaye Achaim Bichlal. Réfléchir, qu'est-ce que Dieu représente par rapport à moi? Rappelez-vous, on a une personne qui a un problème, son cerveau réfléchit à des bêtises. Donc on lui dit, il faut que tu purifies ton cerveau, il faut raffiner ton cerveau. Comment tu vas le faire? Technique. Essaye de réfléchir à Dieu. Essaye de réfléchir, qu'est-ce que Dieu, quel est le rapport que tu as avec Akadosh Baruch Hu? On dit qu'Akadosh Baruch Hu, on l'appelle Chaye Achaim. Chaye Achaim, ça veut dire quoi? La vie de la vie. Donc, essaye de réfléchir à ça. Comment Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui donne la vie à la vie. Quel rapport j'ai moi avec Akadosh Baruch Hu? Vechaye Nishmato Bifrat. Réfléchir à ça, le rapport que j'ai avec Akadosh Baruch Hu. Comment je retrouve Akadosh Baruch Hu dans ma vie? Comment il y a des choses dans la journée qui se passent qui nous aident à voir Akadosh Baruch Hu. Vous savez que c'est une des raisons pour laquelle tous les matins, quand on fait la tfila, on répète la Shira. Voilà, on a fait Béchalach. Pourquoi on répète la Shira tous les jours? Pourquoi on répète la Shira? Et avant la Shira encore, on a tous les Alléluia. Vous savez de quoi il parle tous les Alléluia? Il parle de la grandeur de Dieu dans les astres, dans la nature, dans les montagnes, enfin des trucs, a priori, ça nous parle pas. Pourquoi on nous parle de tout ça? Pourquoi directement on passe pas au concret? Parce que à quoi on veut arriver? Nous, on veut arriver au schéma. C'est quoi le schéma? Ve'afta et Hashem Elokecha. On te demande d'aimer Dieu. Mais comment tu peux me demander d'aimer Dieu? Je sais même pas qui c'est Dieu, entre guillemets. Il n'est pas dans ma tête. Je me suis réveillé, je suis là à moitié. Je ne sais pas qui c'est Akadosh Baruch Hu. Là, on te dit, pour comprendre qui c'est Akadosh Baruch Hu, il faut d'abord essayer de réfléchir à Akadosh Baruch Hu. Essaye de réfléchir quel rapport il y a entre toi et Akadosh Baruch Hu. Comment Akadosh Baruch Hu est présent dans ta vie? C'est pour ça que quand on voit, vous verrez la traduction de la tefila, progressivement, on nous met en condition. Progressivement. Au début, on commence à nous parler de notre vie. Après, on commence à nous parler des animaux. Après, on commence à nous parler des astres. Après, on commence à nous parler du champ. Après, on nous parle de la pluie, de la neige, du givre. On nous parle de plein de phénomènes qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Des jeunes, des vieux, des enfants, des anges. On nous parle de beaucoup de choses. Tout ça pourquoi? Pour capter notre attention. Pour qu'à un moment, je me dis, mais attends, il est grand ce Dieu. Il fait beaucoup de choses. Comment moi, de quel droit je me permets, moi, pour qui je me prends pour faire une avéra? Je ressens une certaine gêne, comme ça. Tout est fait pour que j'arrive à ça. C'est ce qui t'explique ici. Donc on va commencer par la pensée. C'est quoi le travail de la pensée? Le travail de la pensée, c'est d'essayer de réfléchir au maximum qu'est-ce que Dieu représente pour moi dans ma vie. C'est pour ça que c'est très important de raconter des miracles. Quand on a un miracle qui nous arrive, très important de le raconter à sa femme, à ses enfants, à ses amis. Pourquoi c'est très important? Pourquoi on raconte la Shira? La Shira, on a dit la Shira, c'est traverser la mer Rouge. Parce que ça nous aide à nous-mêmes et aux autres à prendre conscience de la présence d'Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Et ça, c'est une ségoula pour ne pas avoir les mauvaises pensées. Il faut que Dieu soit présent le plus possible dans nos pensées. Toujours. Vous savez que, on dit que c'est pour ça qu'il y a des halakhot pour tout. Même quand on est aux toilettes, il y a des halakhot. Mm-hmm. T'as des halakhot, comment tu dois te déshabiller, qu'est-ce que tu dois faire, etc. On veut que Dieu soit toujours dans ta tête. Toujours. C'est fait exprès, c'est voulu. Pourquoi? Parce que plus tu auras Dieu dans ta tête, moins tu auras des mauvaises pensées qui viendront t'embêter. C'est comme ça. Ve'alken, Irsov veit ave liot davukbo vekarov elav kosef tivi keven a kosef liot tamid et tel aviv ukmoesh aola le mala tamid betival imkora. Il te dit, c'est très simple, il te dit, tu vas le voir progressivement. Plus tu vas réfléchir à Akadosh Baruch Hu, et plus ta neshama, sans que tu le veuilles, tu vas avoir envie de t'étudier plus, de faire plus de mitzvot, sans que tu comprennes pourquoi, sans que je vais faire forcément le rapport. C'est pour ça que chez Chassidim, c'était très important. Il y a des moments au moins une fois par semaine, dans lesquels on demande au chassid, on demande à un juif, de faire ce qu'on appelle itbonenout. D'accord? Itbonenout. Ça ne pas confondre avec itbonenout. Dans le chassidut de Breslav, on parle de itbonenout. Itbonenout, c'est quoi? Itbonenout, c'est réflexion. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans lesquels les chassidim, ils s'enfermaient dans une pièce. D'accord? Ils restaient comme ça, même quelques minutes, même 30 secondes. D'accord? Bon, en général, les chassidim, quand ils faisaient, j'ai vu des chassidim le faire. Ils s'enfermaient comme ça, ils restaient peut-être, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, sans rien devant. Il n'y a pas de livre, il n'y a personne, il n'y a rien. Et tu es là, tu le rentres, si tu le vois par une petite tête, tu vas voir, il est comme ça sans réfléchir. À quoi il réfléchit? Il réfléchit à la présence d'Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Il réfléchit à un texte qu'il a étudié, et il réfléchit comment ce texte me parle à moi. Et après, il commence la tefila. C'est pour ça que chez Chassidim, on dit que c'est très important d'étudier avant la tefila.
Et au moins, si on ne peut pas tous les jours, au moins une fois par semaine. C'est pour ça qu'il y a cours le Shabbat matin ici à 9h.
C'est pour ça que vous commencez
à dire... D'accord, avis au... David, il faut que tu nous recrutes pour celui-là aussi.
Je pense que vous êtes des...
Pourquoi, pourquoi? Parce qu'on est... Parce que... On te dit, comment tu peux venir faire une fila comme ça? Sec, comme ça, cru.
Faut te préparer...
Faut te préparer d'abord. Faut te préparer... Qu'est-ce qu'on fait quand on étudie un texte de Chassidut le Shabbat matin? On parle de textes qui parlent principalement de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est voulu, c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que quand ta pensée s'est habituée à penser à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, à qui est Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu représente dans ma vie, comment je peux me rapprocher plus d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, quand je fais ma tefila, je suis déjà en condition, ça passe plus vite, je suis déjà échauffé. Quand tu viens directement à froid comme ça, tu t'esquintes. Ça marche pas, ça passe pas. C'est ce qu'il te dit ici. C'est pour ça qu'il faut faire un effort, mais constant. D'accord? Ça peut être par exemple, je sais que parmi une fois, il y avait un rave qui nous disait, même quand on conduit, tu conduis par exemple, il y a des moments de blanc comme ça, t'as rien. Ben, c'est des moments dans lesquels tu peux penser, tu es dans l'autoroute, je sais pas, tu penses au paysage, tu penses à la grandeur d'un Akadosh Baruch Hu.
Dans le mur. Bon.
Pourquoi? Non.
C'est un cri qui dit pas.
J'étais dans mes pensées.
Oui, ouais, tu sais pas si du coup il accélère ou il freine.
Tu mets le tempomate là.
Hein?
Le régulateur automatique.
Ouais, régulateur.
Il se prend pour le Baal Shem Tov, il dit la voiture elle décolle.
Tu vas sur lui, il va se prendre la tienne.
Je vous raconter une anecdote. Tiens, sur nous les chaînes, je vais raconter une belle histoire.
Au rave.
Mendy. Alors.
Au rave, Mendy.
Quelqu'un?
Non, merci.
Lionel, Marcel,
Youssef, il a besoin.
Merci.
Carburant.
Je vais raconter une histoire pour vous montrer comment le fait de penser à Kadosh Baruch Hu, ça peut nous permettre de repousser les avérotes, et encore plus important que ça, ça peut nous permettre de relativiser les choses. Il y avait une fois un chassid qui... Il y avait une fois un chassid qui sentait une sorte de vide, qui sentait une sorte de vide dans sa vie. Alors il a demandé la permission à sa femme pour aller voir son rabbi pour un mois. Un mois, il a dit, il s'est arrangé avec le travail, etc. et tout. Il a demandé la permission à sa femme d'aller chez le rabbi pour un mois, pour étudier la Torah et pour être dans l'ambiance chez le rabbi, parce qu'il sentait un vide dans sa vie. Sa femme lui dit, il n'y a pas de problème, il a tout préparé, il a mis les économies, etc. Il est parti de bon cœur. Il y va chez le rabbi, d'accord. Il arrive en lambeau, il n'est pas bien et tout. Un mois plus tard, il ressort, complètement retapé. Okay. Baruch Hashem, il a étudié constamment, il a baigné dans une ambiance de Torah, il est heureux comme tout. Il est heureux, il dit, je veux rentrer chez moi maintenant, je suis bien. Pour rentrer chez lui, il prend le train. Il prend le train, et à l'époque en Russie, dans le train, il y avait trois classes. Tu avais la première classe, la deuxième classe, la troisième classe. Première classe, c'était les très riches. Deuxième classe, c'était les gens qui avaient les moyens. Troisième classe, c'était les pauvres. D'accord? Et ceux qui ne voulaient pas payer. Ils se mettaient en troisième classe, c'est comme ça. Alors lui, bien sûr, comme il n'y a pas les... Bon, il a mis toutes les économies, du coup, pour le voyage, il n'y a pas beaucoup. Donc, il voyage en troisième classe. Il voyage en troisième classe, il est là, il s'assoit dans le wagon. Et au début, il est tout seul. Et après, il voit des paysans qui commencent à se sortir à côté de lui. Il voit des paysans qui commencent à des discussions complètement pas cachées, un truc moche. Il se dit, bon, c'est pas grave, j'essaie de réfléchir à un Dvartora. Après, il voit un autre paysan qui rentre avec 5 poules. Et il entend 5 comme ça. Et il n'en peut plus. Il dit, oulala, j'étais bien pendant un mois, j'étais un mois le Torah. Et il n'en peut plus, il craque. Il sent qu'il va craquer, il sent qu'il va revenir chez lui, aussi énervé qu'il est parti. Et là, à un certain moment, il se rappelle d'une chose. Il se rappelle, il dit, je me rappelle que mon rabbi m'avait dit que quand je sens que ça me dépasse, il faut essayer de réfléchir. Alors il est là. Donc, il y a tout le bruit du train, le bruit des coques, le bruit des discussions, ça le rend fou. Il se met à réfléchir à un Dvar Torah de Chassidut que son rabbi lui avait enseigné. Il se met à réfléchir, et plus il réfléchit, moins il entend les coques, moins il entend le train, moins il entend les discussions. Il est plongé, il est ailleurs. D'accord? Ça veut pas dire que c'est drogué, Chas v'Shalom. Ça veut dire que la force de la Chassidut, la force de la pensée, ça t'apprend à mettre ta pensée où tu veux, ça t'apprend à relativiser les choses. C'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. T'as une personne qui dit, je suis pas intéressé, ça m'intéresse pas. On lui dit d'abord, tu vas cachériser ta pensée. Et quand tu vas cachériser ta pensée, tu vas t'habituer à penser à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Automatiquement après, la pensée négative, pas cachère, que avant tu voulais la voir, dès qu'elle va t'effleurer à l'esprit, tu vas sentir qu'il y a un blocage. Tu vas dire, mais c'est pas cachère ça. Quel rapport avec moi? D'accord? D'accord? Alors on y va. On va terminer le chapitre. Donc il dit, ça c'est pour la pensée.
V'chol mashiyat mid, l'archov et sirklo kosevze, plus une personne va faire un effort pour avoir une pensée cachère, encore 5 minutes. Kacha itgaber veit pachet kosevze, gambepib, v'chol evarav, l'asok betoro mitzvot, l'dovka ba'en, b'hashem mamash.
C'est le nouveau, il doit partir. Devoir l'appeler. Alors. Donc je continue dans les mots. Il te dit, plus la personne va réfléchir à cette envie et à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et plus il va sentir comment sa parole commence à être différente, il va sentir qu'il va commencer à agir différemment. Ça veut dire que vous avez compris l'ordre qui s'est passé ici. D'abord, je commence à purifier ma pensée. Après, je suis dérangé par les Averot. Et après, progressivement, sans que je me rende compte, je vais sentir que je vais commencer à dire des paroles plus cachères. Je vais sentir que je vais commencer à vouloir faire des mitzvot sans que je comprenne ce qui m'arrive. Tout ça, c'est grâce à quoi? Grâce au fait que j'ai purifié ma pensée, ma parole et mon action. Donc j'ai laissé à la Neshama le pouvoir de s'exprimer. On a un moteur énorme en nous, mais on le bride, tu le bloques. Serge, tu nous entends? Alors...
Ne pense pas là-bas, t'as pas le droit.
Il aime bien les moteurs, alors. On a un moteur qui est bridé. Tu comprends, tu es là, t'as un gros moteur, et il est bridé, tu laisses pas se développer. Tu dis, plus tu vas le laisser se développer, plus tu vas laisser la pensée repenser à Kadosh Baruch Hu, et plus automatiquement on va sentir comment on devient différent. Comment on devient différent, comment on pense différemment, comment on parle différemment, et comment on agit différemment. Val kosef zeh begilui rav, Tif, c'est écrit, Tsama, si, il a vu, Tsama, Nafshi, Vegomer, Ke Adam, Atsame, Lamaim, Ve'en, Lo, Ata'anouk, Adain, Klal. Vous savez, il y a un passouk dans Tehilim, qui dit, dans Tehilim 42, qui dit, Tsama, Lecha, Nafshi, Kama, Lecha, Besari. Il y a un chant du rabbi très connu sur ça. Tsama, Lecha, Nafshi. Il dit, mon âme est assoiffée vers toi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut de l'eau, mais qui n'a pas le plaisir d'avoir bu de l'eau. Le fait même qu'il veut de l'eau, c'est déjà extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Il dit Tsam'a lecha nafshi. David Amelech, quand il était en Teshuvah, il dit mon âme est assoiffée vers toi. Il dit pas j'ai bu de l'eau. Il dit je suis assoiffé vers toi. Ça, il te dit, c'est un processus qui se passe quand la personne a purifié sa pensée, sa parole et son action. On sent une soif vers Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tous arriver à ça. C'est quoi la soif? Ça peut être que je vais ressentir une soif. Ça veut dire que je vais ressentir une gêne quand je fais une avera. Et je vais ressentir que je fais quelque chose de bien quand je fais une mitzvah. Ça, c'est déjà extraordinaire. Il dit Ve'agam al kosevze ve'avazo musteret banu anuma atirim liot ve'ezrenu leotziam imazger. On demande l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour ça. Pourquoi? Parce que quand le Yetzer Hara sait qu'on va, alors ça c'est aussi quelque chose qu'on étudie beaucoup chez Chassidim. On dit que quand le Yetzer Hara voit qu'une personne commence à penser à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il va tout faire pour t'arrêter cette pensée. Tout. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il va commencer à penser à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est fini pour lui. Il est prêt à te laisser faire tout ce que tu veux, étudier un cours de halakha, de mishnah, de gemara, de ce que tu veux. Il sait que dès que tu vas commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu représente dans ma vie, c'est-à-dire dès que tu vas oser le faire, te dire comment ma vie va changer, qu'est-ce que Dieu représente dans ma vie, le Yetzer Hara, il sait que suite à ça, tu ne seras pas le même. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il fait tout pour casser une personne qui est en train de réfléchir à Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il dit ici, il dit que quand on commence à le faire, on demande à Akadosh Baruch Hu de nous aider. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider à rester concentré un maximum, parce que c'est très difficile. Veshiyye alev malemimena levada, velotikanes tsarata leveta, sheitavato lamazé. Parce que c'est quoi le piège dans lequel on tombe? C'est qu'il y a constamment, d'un côté, même si tu vas réussir et que tu seras attiré par la divinité, d'un côté je suis attiré par la divinité, mais d'un autre côté, j'ai le Yitzharara qui m'attire par les bêtises. Et donc, entre les deux, mon cœur...
Balance.
Alors c'est pour ça qu'on demande la bracha à Kadosh Baruch Hu. Mais non, pas du tout là. Tu nous endormis avec ta boucha là. Alors, ce qui t'explique ici, c'est quoi? C'est que plus tu vas réfléchir à Kadosh Baruch Hu, et plus tu vas avancer. Juste, je finis avec ça. Rak shetiyei akeret abayit limshol betzarata ou le garsha achutzav marshav adibur masal kolpanim agam shelo yuchal shelchal gemrem midibo. Voilà, c'est à ça que je voulais arriver. Il t'explique quelque chose de très important. On ne pourra jamais renvoyer le Yitzhara de notre corps. Jamais. C'est impossible. De notre corps et de notre cœur. Impossible. Notre cœur. D'accord, ici, Milibo. De notre cœur. Impossible. On ne pourra jamais renvoyer le Yitzhara. Par contre, ce qu'on pourra faire, ici, il mentionne rapidement une notion qu'on avait étudiée dans le chapitre 12 du Tanya, Yachasra. Il avait dit comme ça. Il avait dit que le corps est comparé à une ville. cette ville, d'accord, il y a plusieurs personnes qui veulent l'assiéger. Il y a deux rois qui veulent l'assiéger. Qu'est-ce qui va se passer? Les deux vont rentrer dans la ville. T'as un roi qui va réussir à assiéger un quartier, un autre qui va réussir à assiéger un autre quartier. Et comme ça, ils vont se battre. Un, il a pris un quartier, l'autre, il a pris un autre quartier. Ils vont pas arrêter. La guerre ne s'arrêtera pas. Qu'est-ce qui t'explique? Il t'explique que c'est une guerre qui ne s'arrêtera jamais. Le corps de l'homme est comparé à cette ville. C'est quoi la ville? La pensée, la parole et l'action. C'est les trois vêtements. Le fait de penser, le fait de parler et le fait d'agir. Le Yetzer Tov et le Yetzer Hara se battent constamment. Qui va prendre le contrôle de ces trois vecteurs? Ça veut dire que peut-être que le Yetzer Tov a réussi à prendre le contrôle de la pensée et que la pensée est cachère, mais le Yetzer Hara a pris le contrôle de la parole, du coup, la Shonara, du coup, je m'énerve, je dis des bêtises. Alors que la pensée était bonne. D'accord? Peut-être l'action est mauvaise, le reste n'est pas bon, parce que c'est une guerre. Et comme dans une guerre, il explique là-bas, il dit que la guerre, comme ce qu'on voit maintenant au Mali et tout ça là-bas, on voit que ça s'arrête jamais. C'est-à-dire, même si on te dit que maintenant il y a un quartier qui a été pris, demain on pourra te dire, le quartier, il a été repris et l'autre, il a été repris. C'est comme ça. Et c'est une guerre qui ne s'arrêtera jamais. Ça veut dire, on pourra jamais renvoyer les Tsaharas de chez nous. Par contre, où est la marge de libre arbitre qu'on a? La seule marge de libre arbitre qu'on a, c'est que moi, j'ai le droit de décider à qui je donne la ville. Vous me suivez? C'est quoi le libre arbitre? C'est que l'homme ici, c'est comme un grand arbitre qui est là, un arbitre, et qui à un certain moment, il va dire, bon, maintenant on donne tout à lui. Maintenant on donne tout à lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les deux rois, il y a un arbitre. C'est qui l'arbitre? C'est moi. Moi, je peux décider, même si j'ai une pulsion qui me dit, fais ça, une autre pulsion qui me dit, fais ça, c'est moi le patron qui va décider, qui va dire, je le fais ou je le fais pas. Ça peut être une décision très difficile à prendre. C'est le seul libre arbitre que j'ai. Mais ça peut être très difficile. D'accord? Donc, Marshava Dibour Maasé, il faut faire un effort au maximum. On pourra pas renvoyer les Tsaharas de chez nous, ça répond à ta question? Renvoyer, on pourra pas. Par contre, ce qu'on pourra faire, c'est s'habituer à être le patron. Mais tu pourras pas le renvoyer. Impossible.
Oui, mais on l'a endormi.
Ça veut dire que...
On l'a...
Tu peux pas l'endormir.
Pas l'endormir. Je veux dire, comme tu dis...
Un vrai kiffeur, qui kiffe quelque chose, d'accord? Même s'il croit qu'il a fait teshuva et que ça le dérangera plus, ça reviendra. Et si c'est pas encore revenu, c'est que c'est un cadeau que Dieu lui a donné. Ça reviendra.
Non, il y a des choses qui sont acquises. Je veux dire, quand je dis c'est acquis pour lui, alors j'ai beaucoup de cadeaux. Non,
rien n'est acquis.
Il y a des choses que ça ne viendrait même pas à l'esprit.
Peut-être que tu vas pouvoir.
Il y a des choses qui ne viendront plus à l'esprit.
Non, mais peut-être.
Parce que c'était pas ton plaisir.
Non, ça c'est comme tuer. C'est bien l'esprit de tuer, c'est même pas du tout.
C'est pas ton plaisir. Non, mais c'est comme ça. Non. Je te donne un exemple. D'accord.
Non, c'est pour dire. C'est pour te montrer, voilà, il y a des choses que. Ouais, bon, il reviendra jamais.
Une fois, il y a un jeune homme qui m'a parlé. Une fois, il y a un jeune homme qui m'a parlé, qui était en voie de mariage. Il avait un problème avec les femmes. D'accord? Et lui, il croyait.
C'est plus courant, ça.
D'accord? Attends, écoute.
C'est déjà plus courant.
Et lui, il croyait. Bon, ça veut dire qu'il avait un problème. C'est-à-dire qu'il était fiancé, mais qu'il faisait d'autres choses à côté. Et lui, il croyait que quand.
Je dirais pas quoi.
D'accord? Pas quelqu'un dit, je te rassure. Parce que je suis formateur du consistoire. Alors, et lui, il croyait. Que quand il allait se marier, ça allait s'arranger. C'est possible. Quand il allait se marier, au début, pendant les quelques mois, peut-être, c'est déjà pas mal quelques mois, peut-être que pendant quelques mois, période de grâce, il regardera pas ailleurs. Mais s'il ne travaille pas sur ça avant le mariage, ça reviendra. C'est sûr, ça reviendra. Tu peux pas partir, tu peux pas l'enlever. C'est impossible d'enlever. Si c'est une nature qu'il a et qu'il a pas travaillé, ça reviendra.
Bah, tu m'as donné un cas, effectivement. Lui, je peux
mais
donner
non,
d'autres cas.
Ça veut dire.
Je peux donner d'autres cas.
Tu m'as donné l'exemple de celui qui faisait pas Shabbat. C'était pas un kiff pour lui travailler Shabbat. Il faisait parce que bon, ça le dérangeait pas. Mais quelque chose qui est un plaisir que je veux le faire, ça me lâchera pas. Ça viendra sous une autre forme, mais ça me lâchera pas. Sauf si je suis sadique. Sauf que quoi? Quelle est la marge de libre arbitre de la personne? C'est que c'est moi qui décide si je me laisse faire ou pas. C'est tout. Et comme il a dit ici, je peux décider, à force de cachériser ma pensée, je peux faire en sorte que quand je fais la vera, ça me dérange.
Mais là, ça veut dire que tu sais quelle chose que tu dois travailler. Il a trouvé son but.
Bien sûr qu'on sait. Qui sait pas ça?
Non,
voilà. Une faiblesse.
Mais c'est ça, c'est qu'à la base, quand tu as dit prenez là, c'est qu'on doit chercher notre but.
Oui.
Mais là, il a trouvé son but. Mais il y a des choses que ça viendra jamais où il va essayer de se battre, de décider de faire.
Plus.
Il pense même plus. Il pense même plus. Lui, il va penser qu'à ça.
Donc c'était pas un plaisir pour lui. C'était pas un plaisir pour lui. C'était pas une pulsion.
Parce que c'était pas son but. On a un but ici.
Oui.
Et c'est trouvé. C'est ça que je m'avais
dit. Ah, oui. D'accord. Je finis juste comme ça pour ceux qui doivent partir. Alkol panim tiyei musteret b'chinat galut va'avdut la keret avet givirta leishtamesh bal gvarim echerim la levad achila ushtia ukidirti bechol derachecha da'eu. Ça veut dire que je peux habituer mon corps. Je peux habituer ça. Je peux le faire. Te dire, même si je pourrais pas maîtriser mes pulsions et que les pulsions négatives viendront quoi qu'il arrive, Je peux habituer mon corps à ne pas suivre les pulsions négatives et à ressentir une gêne quand je veux faire une avéra. Mais ne croyez pas que c'est parce qu'on va mettre un chapeau et une barbe que ça veut dire que les pulsions négatives ne vont partir. C'est impossible. Les pulsions négatives ne partiront pas. Par contre, je peux m'habituer à ne pas les suivre, ou du moins à être dérangé quand je les suis. Ça, je peux le faire. Mais sentir un épanouissement et les enlever, ça, c'est quelque chose qui est pour les tzadikim. D'accord ? Donc, je résume juste en deux mots ce qu'on a pu expliquer dans ce chapitre. On a expliqué qu'il y avait deux catégories d'amour. Il y avait l'amour quand on a trouvé ce qu'on cherchait. Ça, c'est un amour pour les tzadikim. D'ailleurs, quand on est à ce niveau-là, ça, on a dit qu'on peut avoir ça nous aussi des fois en cadeau. Quand on est en mode comme ça, t'as rien envie de faire aucune avéra. C'est top, ça. C'est le top. Je sais que j'ai déjà parlé des gens avec des balais de chouva. Pendant des mois, des fois, c'est les avérotes, elles les attirent, ça les intéresse même plus. Mais ils n'ont rien à faire, ça lui parle même plus. C'est une période de grâce que Dieu lui donne. Il a bifurqué en mode sadique. Et ça reviendra. Ça reviendra. Ça reviendra, il repassera en mode Benoni. Il repassera en mode dans lequel son Yitzhara continuera à l'attaquer. Alors dans ce cas-là, comment il devra faire? Ce qu'il devra faire, on a expliqué, c'est qu'il devra au moins essayer d'avoir le deuxième amour. C'est quoi le deuxième amour? C'est l'amour de la soif. Au moins essayer d'éveiller en soi une soif, ça veut dire, à force de réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, progressivement, numéro 1, il sentira une gêne de faire une avéra. Numéro 2, il aura envie de faire plus. Il saura pas quoi exactement, mais il aura envie de faire plus. Ça, tout le monde peut arriver à ça. Personne, même le plus grand rachat, ne peut pas dire je peux pas arriver à ça. Parce que ça, c'est un amour qu'on a de série en nous. L'envie de faire des mitzvot et la gêne de faire des avérotes. Donc la technique numéro 1 pour ça, c'est itbonenut, ça veut dire réfléchir, d'accord ? La méditation à Kadosh Baruch Hu. Je finirai juste sur un dernier point.
Avec l'aide de Dieu.
Chez Chassidim, on dit que quand on parle de méditation, la méditation c'est quelque chose de personnel. C'est-à-dire, c'est pas que je vais être là, par exemple, à la synagogue, devant tout le monde, être là, ça, regardez-moi, c'est quelque chose de très très personnel. C'est-à-dire, c'est quelque chose, je mêle dedans ni ma femme, ni mes enfants, d'accord, ni mon maître, ni personne. C'est quelque chose de vraiment très très personnel.
C'est des bouches réfléchies.
D'accord ? Je me mets dans un coin, et je me pose la question, même quand je suis en train de marcher, voilà, je viens à la synagogue, je suis en train de marcher, on a plein de temps quand on cherche. Et je me pose la question, je me dis, qu'est-ce que représente Dieu dans ma vie ? Et tu te mets à regarder les arbres autour de toi, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, d'accord ? Les oiseaux, le ciel. Et tu te mets à réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et plus tu réfléchis à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et plus tu te sens petit. Plus tu te sens petit. Tu te sens petit, automatiquement quand tu te sens petit. Quand le Yitzhar vient de proposer une avéra, tu te dis, mais attends, je suis tellement petit, de quel droit je fais une avéra ? D'accord ? Donc c'est très important dans la chassidoute, la itbonenut. La itbonenut va aider à la personne, de prendre conscience des choses. Puisque on parle de ça.
On avait dit qu'on devait, c'est de la méditation, prendre rendez-vous, c'est-à-dire pas faire ça justement n'importe comment, n'importe où. À un moment donné, c'est se poser. Et...
Ça c'est quand on veut penser à sa avérote. Je parle pas de penser à sa avérote. Je parle en général de penser de ma relation avec Dieu. Très personnel.
Mais tu peux le faire tout le temps.
De penser qu'est-ce que Dieu représente pour moi. Je réfléchis que j'habite dans un monde, d'accord, je regarde le monde autour de moi. Et j'essaye d'élargir mes horizons au maximum. Tu sais, quand on réfléchit, on voit que nos horizons sont très, très, très étroits. Je pense à moi, à ma petite famille, à ma petite communauté, à ma femme, à mes enfants. Il faut élargir au maximum ses horizons. C'est pour ça que quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand je suis dans mes petits horizons, je dis pourquoi Dieu me fait ça ? Pourquoi Dieu me fait ça ? Pourquoi Dieu me fait ça ? Parce que je vois qu'autour de moi. Quand je commence à élargir mes horizons, à voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, dans ma tête, tout devient plus raffiné et j'apprends à donner les bonnes proportions aux choses. C'est pour ça que c'est très important d'élargir ses horizons au maximum, de penser à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et après, une fois que les vêtements, Marshava, Dibour et Maasé, la pensée, la parole et l'action sont propres au maximum, après ça vient automatiquement. Automatiquement, on est dérangé de faire la vérote, automatiquement on va faire la mitzvot. On s'arrête là pour aujourd'hui. Oui, je voulais dire que c'est la même chose quand on parle du couple. Il y a beaucoup de rabbanim qui disent ça. Que quand par exemple un mari il dit j'ai plus aucun sentiment envers ma femme, et il ressent plus rien. D'accord ? C'est-à-dire ni ça le dérange de blesser sa femme, et ni il a envie de faire un cadeau à sa femme. Ça lui dit rien de donner des fleurs à sa femme ou blesser sa femme. Ça lui parle pas. Qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit c'est pas en donnant un cadeau que ça va venir. Donc c'est pas parce que tu vas amener des bouquets de fleurs que tu vas faire attention que ça va changer. Il faut que tu réfléchisses dans ta tête qu'est-ce que ma femme représente pour moi. Et automatiquement, quand tu vas réfléchir, automatiquement, ça va venir, ça prend du temps. C'est comme la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, les Avdil. automatiquement, quand tu vas réfléchir, qu'est-ce que ça représente pour moi, d'accord ? Il faut pas arriver à des conclusions négatives. Mais non, je peux me regarder.
C'est pas bon ça.
D'accord.
Faut dire la vérité. Ça va dans les deux sens là.
Oui, c'est vrai.
Parce que tu peux dire, tu peux réfléchir, mais pourquoi avant ça ? Parce qu'elle faisait ça, maintenant elle ne fait plus. Mais tu fais pas les.
Donc ça te permet d'arriver à un. Alors très bien. Dans ce cas-là, au moins, ça te permet d'arriver à un bilan. Oui. De comprendre qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce qui s'est passé. Tu peux lui en parler. Eh tiens, mais ça, mais c'est rien ça. Tu voulais t'appeler là ? Mais tiens, je te la fais, je t'en fais 10 cette gueule là. Tous les jours, je la fais.
Non, c'est pas la pire, je suis allergique.
Jean-Luc te dit, va chez ta mère.
Non, mais non. Ça, parce que là c'est un être humain aussi que t'as en face.
Quand tu réfléchis.
C'est un être humain que t'as en face. Quand tu
il faut pas avoir peur de prendre un problème, de le regarder en face. Droit dans les yeux.
Je suis d'accord pour tout. Mais là.
Pas d'éviter le problème. De regarder droit le problème dans les yeux. De dire il y a un problème. Où est le problème ? Qu'est-ce qui se passe ?
Avec la femme.
C'est-à-dire qu'il regarde pas dans les yeux, Michael.
Quoi ? De quoi ?
Non, il n'y a pas de problème.
Je vais poser une question qui n'a rien à voir avec.
C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Juste deux secondes. C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Avec Akadosh Baruch Hu, il faut pas avoir peur de regarder Akadosh Baruch Hu Kaviachol droit dans les yeux. Ça veut dire pas de dire je fais mes mitzvot, etc. De regarder droit dans les yeux, de dire comment cette mitzvah change ma vie. Qu'est-ce que ça change dans ma vie ? Tu te poses, juste le fait de se poser la question, il y a un déclic qui se passe dans la tête.
Voilà, là on a un cours d'hommes, on parle de tzadikim et tout. Qu'est-ce qu'elles font les femmes quand elles ont des cours de femmes ? C'est pas de l'indiscrétion, mais est-ce qu'elles ont des références comme nous ? On parle du rabbi, de.
C'est sûr, hein. C'est le mercredi soir.
Non mais c'est quoi leur
sujet ?
Mais pour
ce qui est
non, 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 non